Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux. Il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio.
Mardi 25 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin, alors qu'il fait quand même encore un peu froid. Si vous venez de vous réveiller, sachez qu'il y a une petite couche de neige sur vos voitures ce matin sur la route. Moins 16 en ce moment, moins 22 avec le refroidissement éolien. Aujourd'hui, ça s'annonce plutôt beau. Quand même, moins 10 avec possibilité d'averse de neige, mais sachez que la nuit qui s'en vient sera froide, moins 23 demain, moins 18, encore deux nuits froides nous attendent, ce n'est pas le temps de ranger les habits de neige. Maude, bonjour.
Salut.
Alors aujourd'hui, on attend cette annonce à 14h de François Legault qui devrait commencer à parler de déconfinement dans le Journal de Montréal ce matin. On apprend qu'il sera question de restaurants, de sport chez les jeunes, là, mais qu'on va continuer de parler de prudence. Donc, on pourrait avoir, permettre un rassemblement de 4 personnes ou les occupants de 2 résidences pour aller dans un restaurant. On parle aussi de la reprise des sports chez les jeunes. On parle d'une séquence plus que d'un calendrier avec des dates précises, là, donc d'avoir une meilleure idée de ça va se faire en quelques semaines, combien de semaines, où on s'en va avec tout ça. Ça va devoir être bien communiqué parce qu'il y a pas mal de grogne dans la population. D'ailleurs, hier, il y avait cette annonce du gouvernement sur la stratégie de la main tendue là, pour essayer d'aller faire vacciner, première dose, les 540 000 adultes non vaccinés. Finalement, ce qu'on a annoncé, c'est pas mal de ce qu'on avait déjà fait. Là, clinique éphémère, documentation, ligne téléphonique pour les gens qui ont des questions. Mais il y a des organismes communautaires qui disent « Ouais, on aurait pu fort probablement être mis davantage à contribution pour aller au-delà, aller vers cette clientèle-là, aller cogner à leur porte. » C'était aussi le début hier du passeport vaccinal dans les grandes surfaces. Y, ce matin, dans le journal, une bonne caricature en montrant certaines incohérences. Longue liste d'attente de gens qui veulent entrer dans un magasin grande surface. Il y a un anti-vaccin qui coupe la ligne, qui dit « Ben moi, j'ai le droit de rentrer. Je viens ici pour travailler. » Ouais, ça montre cette incohérence-là que les employés ne sont pas obligés d'être vaccinés. On avait aussi une annonce du ministère de l'Éducation, ministre de l'Éducation hier, qui a parlé qu'est-ce qu'il allait faire pour aller recruter du personnel, l'importance de pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Il disait qu'il n'y a pas de bris de service en ce moment ou presque pas dans les écoles. En Ontario, c'est 16 écoles qui sont fermées, plus de 330 qui ont plus de 30 % de taux d'absentéisme à cause de la COVID. Est-ce que c'est ce qui nous attend ici? On va voir, mais pour l'instant, ça semble bien aller. C'est assez comique d'avoir cette annonce-là hier sur le manque de main-d'œuvre et dans la presse ce matin de voir les joies de la bureaucratie avec cet article-là d'un prof qui a demandé un congé sabbatique il y a 5 ans. Là, il est obligé de le prendre, ne peut pas revenir en arrière. Le centre de services scolaires dit « Ben non, tu l'as demandé, voici, prends-le en ce moment. » Même si on comprend qu'on n'était pas en pandémie il y a 5 ans, que la pénurie n'était pas aussi grave. Toujours dans la presse, une histoire assez intéressante d'une greffe de poumon. On a 3 patients qui ont reçu au Québec une greffe de poumon. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est 3 patients qui ont attrapé la COVID, qui ont eu des complications hyper graves et 3 patients qui n'étaient soit pas vaccinés ou soit pas adéquatement vaccinés. On nous dit que c'était pas des anti-vaccins, qu'il y a un protocole qui est en place pour prendre les décisions, qui a les capacités de survivre, de s'améliorer. Là. On écrit notamment qu'on ferait pas ça pour un grand fumeur qui a décidé qu'il n'arrêterait pas de fumer. Là. On n'utiliserait pas ses ressources, donc des organes très, très rares pour ces greffes-là. mais en même temps, ça pose cette question, ce débat éthique sur est-ce que les non-vaccinés devraient être priorisés dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui disent on devrait traiter tout le monde de façon adéquate, mais il y a quand même dans le corps médical des gens qui sont vraiment à bout, pour qui on devrait même pas traiter les non-vaccinés. Alors ce débat-là continue de prendre de l'ampleur et on a appris dans les dernières minutes qu'à Londres, la police va enquêter sur des événements qui se sont passés au 10 Downing Street, la résidence du premier ministre britannique Boris Johnson. On parle de fêtes qui ont eu lieu au cours des deux dernières années qui auraient été contraires aux mesures sanitaires. Et Maude, parle-moi du tramway ce matin. Le maire de Québec va faire le point aujourd'hui. On a un sondage. Est-ce que ça va bien pour le projet?
Moyen. Les échos dans la population sont pas les meilleurs. Ça a déjà été beaucoup mieux. Il y a un nouveau sondage Léger qui révèle qu'il y a une dégringolade de l'appui au projet de tramway. Donc, une personne sur deux, là, 52 % des approuvent le projet maintenant dans la capitale, selon le coup de sonde qui a été commandé par la Ville de Québec auprès de 500 répondants. Ça a été mené la semaine dernière. Il y a 43 % des répondants qui disent être peu ou pas du tout familiers avec le projet. Ça, c'est quand même étonnant parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Puis, la dernière campagne électorale, ça a été un des enjeux principaux. Donc, la pluie n'a jamais été aussi faible. Tu l'as dit, l'administration du maire Marchand va faire le point aujourd'hui, aussi mercredi avec la presse pour constater l'état d'avancement du projet. On estime que le défi de remettre ce projet-là sur les rails dans l'opinion publique n'est pas insurmontable. Et le journal a appris lundi soir aussi, je rappelle que les dépassements de coûts pour le tramway tourneraient finalement autour de 500 millions de dollars plutôt que 600 millions.
Ouais. Et il y a le SPVM en ce moment qui est à la recherche de possibles victimes d'une famille d'accueil. Une histoire assez macabre, là.
Oui, donc une ancienne famille d'accueil de Montréal-Est qui est accusée d'une série de crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur une jeune fille que eux hébergeaient durant les années 80. Yvon Guernon, Liliane Liboiron et leur fille Linda Guernon ont comparu en décembre dernier, mais la police de Montréal croit que le couple et leur fille pourraient avoir fait d'autres victimes. Donc, il y a un appel qui a été lancé hier à savoir si d'autres enfants auraient pu être victimes de leur sévice. Quiconque aurait été victime de cette famille-là ou aurait des informations à son sujet, on est invité à se rendre à un poste de quartier ou s'y a communiqué directement avec les enquêteurs de la section des agressions sexuelles. Donc, l'homme de 84 ans est accusé de grossière indécence. On reproche à sa conjointe des chefs de voies de fait d'agressions sexuelles, de contacts sexuels et leur fille aussi, qui est aujourd'hui âgée de 56 ans, est accusée d'agressions sexuelles, de grossière indécence et d'atteinte à la pudeur. Elle aurait aussi elle-même le profité de la jeune victime. Selon le SPVM, l'enfant, elle avait été placée dans cette famille-là en 1980. Les agressions sexuelles auraient commencé dès son arrivée pour une période de 5 à 7 ans. Puis c'est pas la première fois qu'Yvon Guernon a été famille d'accueil avec son conjointe à la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80 là, et a fait face déjà à la justice pour des gestes similaires. Donc les trois accusés qui vont revenir au palais de justice le 14 février.
Merci Maude.
Les armes?
Oui, parle-moi des armes. Ben oui, excuse-moi, j'avais pas vu les armes. Parle-moi des armes. Ben en fait, je voulais que tu m'en parles, mais je l'avais pas vu. Parle-moi des armes, excuse-moi.
Ben oui, on est mêlés à matin, c'est correct.
Parce que c'est un
super bon dossier du journal ce matin. Donc, 2000 armes illégales qui seront en circulation à Montréal. C'est ce que le bureau d'enquête a pu apprendre de sources bien informées du milieu, autant interlope que policiers. Notamment, on parlait à un trafiquant. Donc, le marché noir serait alimenté chaque mois par au moins deux nouvelles cargaisons en provenance des États-Unis. Et le prix de ces armes-là illégales varie en fonction de la catégorie, de ses particularités, de l'urgence aussi pour l'acheteur de l'avoir en sa possession. Donc, ça peut aller de 1 000 à 8 000 $. Et le journal dresse même le portrait de quelques-unes de ces armes-là. On a accès à des produits américains, israéliens, suédois, de la République tchèque.
Non, mais c'est fou de voir la quantité d'armes qui circulent, le type d'armes aussi. On n'est pas dans les petits fusils de chasse, là, bien loin de là.
Non, très loin de là, là. Ce sont de véritables machines à tuer, là, dans certains cas. La plupart des armes en vente à Montréal, par contre, ont été achetées en Pennsylvanie. Donc, c'est un État américain qui a quand même des lois assez permissives en matière d'armes à feu. Et c'est la pègre irlandaise qui chapeaute l'importation des armes à Montréal, à ce qu'on peut lire dans le journal. Les gangs de rue sont pas mal plus bas dans la chaîne. Donc, une fois en ville, les armes sont placées dans des caches avant d'être vendues au crime organisé, aux gangs de rue. Puis toujours, selon les sources du bureau d'enquête, il y a une épicerie montréalaise qui servirait même de point de ravitaillement d'armes. Ah, donc, les vrais clients entrent toi puis moi, là, on entre par la porte en avant, on s'en va s'acheter notre bouffe. Puis les autres entrent par une porte en arrière qui mène à l'entrepôt là, pour se procurer des armes qui sont, elles, cachées dans des caisses.
Mais ça, on sait ça. La police sait ça si les journalistes du journal le savent.
Oui, bien, eux ont parlé avec un trafiquant d'armes. Je ne sais pas si lui a dit ça aux policiers. Peut-être que oui ou peut-être que non. Peut-être que c'est des sources policières aussi qui ont dit ça. Là, mais le trafiquant qui s'est confié aux journalistes raconte aussi là, comment ça se passe quand l'arme elle est vendue au client. Toutes les précautions, parce que tu ne donnes pas une arme qui est déjà chargée à ton client, parce qu'on s'entend que ça peut se revirer aussi contre toi. C'est assez fascinant quand même de lire ça dans le journal ce matin, des informations très troublantes.
Oui, puis on nous parle aussi de la watch des policiers de la SQ et qui ont pas mal de misère dans certaines réserves pour essayer de faire cette surveillance-là. Donc, merci Maude de m'avoir ramené à l'ordre et d'avoir parlé de cet important sujet. J'ai bu du café, tout va bien. L'émission peut commencer. Bonne journée.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ce serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Alors, commençons avec cette annonce à 14h. Normalement, selon le Journal de Montréal, on va commencer à parler d'assouplissement, notamment les restaurants qui pourraient ouvrir pour 4 personnes là, ou une bulle familiale, possiblement le retour du sport aussi chez les jeunes. Yasmine, enfin?
Enfin, c'est des très bonnes nouvelles. Ça veut dire que... on finit par, bon, on a dépassé le pic, ça a été démontré dans les chiffres, mais que là, on va suivre aussi ce que l'Ontario va faire et le 31, en même temps que l'Ontario, ben, 2 bulles ou 4 personnes pourront s'attabler dans un restaurant. Reste à savoir, est-ce que c'est un agenda qui est plus complet, qui vont nous annoncer à 14 heures, ou est-ce que ça va se limiter aux restaurants et aux activités sportives dites civiles des jeunes enfants? Moi, j'aimerais bien voir un portrait global pour dire, OK, les salles de cinéma, les salles de spectacle, ça va être pour quand? Même si c'est pas pour le 31 janvier, même si c'est pas pour le 8 février, mais quand est-ce qu'on imagine à peu près que ça, on va se rendre à cet assouplissement-là? Parce que ça va permettre de baisser la grogne, baisser la pression, puis dire que on vous a pas oublié. C'est pas qu'on considère que vous êtes pas important ou que vous êtes pas des travailleurs essentiels pour notre âme et pour notre santé mentale. C'est que ça va se faire de manière graduelle et vous êtes pris en compte. Et c'est cette date-là que l'on vise. On vous le confirmera ultérieurement.
Dominique.
Oui, pour vous donner une idée jusqu'à quel point la grogne est répandue, hier, c'était le diocèse de Québec qui demandait que les églises soient dans le paquet là, d'éléments qui soient rouvertes le plus rapidement possible. Fait que quand les évêques prennent la plume, vous le savez que
ça
c'est
va
rendu
mal.
Le temps de déconfiner. Fait que oui, parce que ça fait suite à ce qu'on se disait hier aussi. Encore aujourd'hui, on voit des articles, on voit des lettres ouvertes, ça vient de tous les milieux. Je pense que les gens se sont rendus là. Je pense que les gens se disent, on est capable de s'occuper de nos propres milieux. Et moi, ce que ça me dit surtout pour le gouvernement du Québec, et je sais qu'ils ne souhaitent pas ça, mais si d'aventure il y a un nouveau variant qui arrive dans 2 mois, 3 mois, si on doit refermer certains éléments, je pense que et la santé publique et les ministres en titre voudront pas revivre ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment.
Dominique.
Et j'espère, j'espère qu'ils vont être beaucoup plus...
Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. On était à 5e vague là, en décembre, là, Dominique.
Non, mais j'espère, en tout cas, pour les restaurateurs, pour les propriétaires de tout ce qui est fermé en ce moment, pour les salles de spectacle, j'espère qu'ils vont avoir un lien plus proche avec leurs élus, puis qu'ils vont être en mesure peut-être de leur expliquer comment les mesures seraient applicables ou sont inapplicables, qui sont pensées par la santé publique, parce que en ce moment, on sent une déconnexion qui a fait mal, je pense, au gouvernement, puis qui devrait, pour eux, ne pas se reproduire.
Est-ce que, justement, Yasmine, ça ouvre pas la porte à pas nécessairement avoir une unité de déconfinement, mais avoir... bon, je pense qu'ils ne nous entendent pas en ce moment, Yasmine et Dominique. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des signes si vous nous entendez. Et on ne m'entend pas, je crois, du côté de nos deux collaborateurs. Ah, là, ils nous entendent. Bon, parfait. Alors, Yasmine, est-ce que ce que Dominique disait là, par rapport à cette possibilité d'avoir une autre vague, là, est-ce que c'est pas le temps d'avoir une unité, pas de déconfinement, mais une unité de reconfinement, d'avoir des gens là, qui vont nous dire, si jamais on avait une sixième vague, un autre variant, au lieu de tout fermer, couvre-feu, comme on l'a fait pendant les vagues importantes, d'avoir de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de réfléchir, de regarder la science, puis de dire, bon, ben c'est vrai que dans les cinémas, il n'y en a pas eu d'éclosion. C'est vrai que dans les restaurants, il y en a eu un petit peu, mais en cuisine, donc comment on pourrait s'arranger pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il serait pas temps de penser à comment reconfiner si on devait confiner ou on se dit, ben non, on va rester optimiste, puis on va peut-être même être un peu jovialiste, puis ça n'arrivera pas, fait qu'on y repensera pas, puis si ça arrive, ben confinement, couvre-feu et autres?
Ben, c'est sûr qu'il va falloir y penser aujourd'hui avant que ça arrive pour ne pas être pris dans des soit des mesurettes pour faire face à la grogne populaire, soit des mesures très drastiques comme le couvre-feu qui peuvent faire très mal, que ce soit politiquement ou même d'un point de vue de santé publique, là, de santé mentale. Là, le couvre-feu, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Là. Je suis pas scientifique, mais mon petit doigt me dit que c'était peut-être pas la meilleure chose. Mais la COVID, là, ça commence à devenir tellement courant que je me demande si éventuellement ça va pas devenir comme une espèce des unités transversales un peu partout dans tous les secteurs. Là. Tu sais, par exemple, la CNESST, là, elle pourrait, dans des restaurants, débarquer parce qu'il y a un enjeu de santé publique où il n'y a pas de protection, puis dire... Ce restaurant-ci où il y a eu une éclosion, où il n'y a pas assez de mesures, il n'y a pas de port du masque, il n'y a pas X, Y, Z, devra fermer pour les deux prochaines semaines. On a des organes qui font des inspections dans différents secteurs et qui pourraient déterminer selon le degré dans une gestion de risque finalement, si cet hôpital, j'espère pas les hôpitaux là, mais ce restaurant, ce bar, cette salle de cinéma, cette salle de spectacle, ce gym devra fermer plutôt que d'avoir des mesures, tu sais, mur à mur pour tout le monde à travers le Québec, que tu aies respecté les mesures, que tu aies respecté les règles sanitaires, que tu aies fait ta job, tu te retrouves à payer pour le moron qui lui a décidé que il s'en occupait pas. Ça va, tu sais, tranquillement là, on va commencer à intérioriser la gestion de la COVID comme une gestion des infections dans tous les secteurs, que ce soit dans les restaurants ou dans les hôpitaux.
Dominique, c'est quoi le gros défi cet après-midi pour le gouvernement Legault? C'est quoi son plus gros défi en termes de communication? Là? On sait que ça a été difficile. On le voit du côté de l'adhésion de la population, que c'est ardu. Et là, on va ouvrir peut-être le sport un peu, les restaurants. C'est quoi son plus grand défi?
C'est de retrouver la clarté, c'est de retrouver une façon simple d'expliquer aux gens, voici où est-ce qu'on est, voici où est-ce qu'on va, voici pourquoi on y va, puis voici pourquoi on va à cette vitesse-là. Je pense que les gens sont pas écœurés des mesures sanitaires, on l'est tous, là, mais ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis pourquoi est-ce qu'il faut aider les gens dans le personnel de la santé, ça va. Mais ils sont, je pense, juste tannés de se faire dire, ben ça, c'est toute l'information qu'on a. OK, oui, les cas, OK, oui, les hospitalisations, tout ça, mais pour demain, pour après-demain, moi, la prévisibilité, ça marche pas. Fait que je pense qu'il faut redonner un nouveau cadre d'analyse à la population, surtout si on s'en va vers ce que Yasmine disait, c'est-à-dire une responsabilisation individuelle des entreprises. Je pense qu'il faut être en mesure de communiquer ça, puis c'est à mon sens le gros défi, parce que jamais plus le gouvernement va vouloir que le premier ministre se présente puis dire le 30 décembre, ouais, ben le 31, les restos, c'est fermé. C'est ça, là, je pense que ça, c'est le bout qui ne passe plus, puis ça n'est que normal, et que ce n'est qu'une politesse élémentaire envers les propriétaires d'entreprises que de leur dire, de leur donner plus que 24 heures pour se virer de bord.
Parlons des camionneurs. Il y a un convoi qui est parti dimanche là, de l'Ouest canadien qui s'en va vers Ottawa. L'objectif premier là, de ce convoi-là, à la base, c'était de manifester contre l'obligation vaccinale pour les camionneurs. On parle d'à peu près 10% au Canada de camionneurs qui ne sont pas vaccinés. L'Association canadienne du camionnage n'est pas d'accord avec cette manifestation-là, mais on voit du côté politique, par contre, qui a de plus en plus d'alliés là, à ses camionneurs, notamment des politiciens conservateurs comme l'ancien chef Andrew Scheer qui a tweeté « Bravo aux camionneurs de monter aux barricades contre le gouvernement liberticide de Justin Trudeau ». Yasmine, c'est délicat cette question-là pour les conservateurs à Ottawa, là.
C'est délicat, puis on l'a vu, Erin O'Toole n'est pas tout à fait à l'aise avec les questions entourant les camionneurs parce que, tu sais, ils partent pas de Terre-Neuve en s'en venant vers Ottawa, ils partent de Vancouver, puis ils vont traverser les provinces où il y a le plus de députés conservateurs, puis il y aura bien du monde en train de les applaudir sur les routes le temps qu'ils arrivent à Ottawa. Fait que, est-ce que Erin O'Toole peut dire qu'il c'est pas le moment de faire ce genre de manifestation, que c'est pas productif de faire ce genre de manifestation? Pas juste parce que ils doivent pas le faire, question de santé publique, puis ce qu'il leur est demandé, c'est pas la fin du monde, dans le sens tu veux pas te faire vacciner, il y en a pas de problème, tu vas rester chez vous 2 semaines en quarantaine. C'est que eux, ils ne veulent ni la vaccination obligatoire, ni la quarantaine pendant 2 semaines. C'est là le problème. Est-ce que Erin O'Toole va pouvoir avoir le courage qui devrait être le sien comme chef de l'opposition officielle? Je ne pense pas avoir comment Andrew Scheer est sorti publiquement pour dire bravo à ses truckers, bravo à ses camionneurs. La pression, ça démontre qu'il y a une pression énorme au caucus conservateur sur l'appui ou le non-appui à cette manifestation. Ce qui rend la chose une petite épine aussi dans le pied du gouvernement, c'est aussi toute la question de l'approvisionnement. On sait que les entreprises là vivent un gros problème d'approvisionnement. Les tablettes commencent à se vider. Et s'il devait y avoir un problème d'approvisionnement dû à des manifestations puis des refus des camionneurs de répondre à la demande, ben là, c'est sûr que ça va devenir un enjeu plus que politique, il va devenir économique.
Dominique?
Ben, tout à fait. Deux éléments. Pour le gouvernement, Yasmine a tout à fait raison. Je pense que et eux et les gens de l'Association canadienne du camionnage devraient expliquer de quoi est faite la chaîne logistique, puis dans quelle mesure ce 10%-là est réellement capable de perturber les éléments. Donc, je pense que ça pourrait être un outil intéressant au niveau des communications pour que la population puisse comprendre oui, ça risque d'exacerber des problèmes ou non, on devrait être correct. Puis l'autre problème, ben, effectivement, c'est pour Erin O'Toole. Habituellement, les anciens chefs ont la décence de s'en aller. Monsieur Scheer, on comprend qu'il a fait un autre choix. Monsieur O'Toole doit prier, parce que c'est ce que les conservateurs font, que quand les camions vont repartir vers l'ouest, ils amènent Monsieur Scheer avec eux. C'est parce que c'est ça. Un ancien chef, ça reste jamais seul. Ses réseaux sont encore actifs. Il y a encore des députés qui leur sont fidèles. Et c'est tout ça qu'on voit. Et rappelons-nous, on est dans une période pré-évaluation du leadership de Monsieur O'Toole. Alors, ce que Andrew Scheer fait, c'est pas innocent, c'est pas anodin. C'est une autre petite coche dans l'armure de Monsieur O'Toole en disant « Ah, souvenez-vous comment moi j'ai fait une belle campagne et je me battais pour les principes conservateurs ». Rien dont Erin O'Toole a besoin en ce moment.
Ouais, puis on a vu Pierre Poilievre aussi hier sur Twitter critiquer les gouvernements en ce moment, encore une fois, de liberticides et d'affamés de pouvoir qui utilisent la COVID pour se remplir la panse de ces pouvoirs-là. Alors disons que dans le caucus conservateur en ce moment, la ligne directrice sur comment on critique les mesures sanitaires, c'est pas très clair. Parlez-moi de Dominique Anglade qui recrute Yasmine. Ça vous a marqué hier, là?
Ben, en fait, tu sais, hier matin, là, je vous disais, le problème des libéraux, c'est qu'ils lancent des bonnes propositions, puis ils les gardent pas longtemps.
Ils pitchent plein d'affaires, puis ils espèrent que ça colle.
Ils pitchent plein d'affaires, mais même quand ça colle, ils passent à autre chose. Alors,
on lance autre chose.
Tu sais, dimanche, là, elle a fait, Dominique Anglade puis son équipe, une bonne sortie, une bonne recommandation au gouvernement. C'était bon, mais ils l'ont pas laissé vivre dans le cycle de nouvelles. Ils l'ont tué avec un courriel pour demander des candidatures partout au Québec. C'était-tu vraiment nécessaire de tuer ta bonne nouvelle dans le cycle de nouvelles? Parce que hier, là, au téléjournal, personne parlait de la bonne sortie de Dominique Anglade. Tout le monde parlait de Dominique Anglade qui cherche des candidats partout parce que ça donne l'impression qu'elle est pas capable d'aller chercher des candidats. Ça, là, c'est un problème de communication. Tu fais ce genre de courriel quand t'as une mauvaise nouvelle que t'as annoncée la veille. Pas quand c'est une bonne nouvelle qui a accroché, que le monde dise enfin une bonne proposition. Vraiment, j'étais déçue de la stratégie de communication des libéraux. Par contre, hier, on a vu qu'il y a un nouveau processus de sélection des candidats à l'investiture. Ce qui est intéressant là-dedans, puis t'as pas écrit noir sur blanc, c'est que même les candidats actuels devront passer par un comité de sélection qui va leur donner feu rouge ou feu vert. Rappelons-nous Eva Nassif au fédéral, qui était une députée sortante des libéraux et qui a eu un feu rouge pour, elle n'a pas pu se représenter pour les libéraux. Est-ce qu'il va y avoir une Eva Nassif au sein du caucus libéral? Ça va être intéressant. La deuxième chose qu'on nous dit pas, combien de circonscriptions Dominique Anglade se garde pour des candidatures vedettes? Et si ces comtés-là, elle les garde sur l'île de Montréal, ben là, ça va être plus facile.
Dominique?
J'ai jamais vu ça, chercher des candidatures sur Instagram, là. Ça, c'est une première pour moi. Puis
ouais, mais c'est un parti de jeunes, Dominique, là.
Oui, c'est un parti de jeunes. Moi, quand j'ai vu la publicité, là, rassemblant tous les progressistes, je me suis dit, il doit y avoir plusieurs solidaires qui se tapent ses cuisses en ce moment. Au moment où, en plus, on rappelle les 10 ans des carrés rouges, là, oui, ils doivent se dire, c'est le grand parti progressiste qu'il nous fallait, le PLQ. Je pense avoir décelé la raison derrière l'hyperactivité des communications libérales. Et si, dans les prochaines semaines, ouais, les députés actuels se mettaient à annoncer leur départ, et si, hein, on en a eu une, mais il va en avoir d'autres, alors il faut démontrer le mouvement avant. Il faut qu'on soit capable de dire « non, mais on est dans un grand processus de renouvellement ». Peut-être que la dégaine rapide actuelle est expliquée par le fait qu'on n'a pas envie que le spin, tout le monde s'en va mordre et prenne racine.
On veut parler d'autre chose avant que ce spin-là embarque. Dominique Yasmine, merci à vous deux.
Merci.
Salut. À demain.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
Vous écoutez Philippe Vincent Choisy. Cube Radio.
Autrement dit, la nouvelle radio numérique.
Cube Radio.
Cube Radio. En direct à LCN.
Annonce aujourd'hui, donc, selon le Journal de Montréal, sur le plan de déconfinement. Ça devrait en principe être à 14 heures cet après-midi. Philippe-Vincent Foisy, conjoint dans les studios de Cube Radio. Philippe-Vincent, bon, là, ce sera pas des petits parties, ce sera de très, très petits parties, mais il y a quand même de l'espoir là-dedans.
Oui, bien, au moins, on commence à regarder vers le bout du tunnel, cette fameuse lumière. On va commencer enfin à la sentir à partir de ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal du 31 janvier. Donc, M. Legault ne pourra pas se faire accuser d'être en retard sur l'Ontario. Il va pouvoir même utiliser la carte qu'il a été un petit peu plus prudent que l'Ontario, mais qu'en bout de ligne, on arrive au même résultat. Ce qu'on comprend ce matin, c'est qu'on va rouvrir les restaurants, mais simplement pour des groupes de 4, là, une bulle familiale ou 2 bulles, mais maximum de 4, que le sport pour les jeunes va reprendre. On ne parle pas des lieux de culte, mais normalement, nous, on nous avait dit que ça faisait partie des services services essentiels. Et là, le gros défi aujourd'hui de François Legault, ça va être de bien communiquer tout ça, le calendrier, comme pourquoi on le communique, pourquoi on permet le sport chez les jeunes à ce moment-ci, quel genre de sport, tous les sports, mais aussi pour les restaurants, les salles de spectacle, le cinéma. Ça va être important d'avoir une séquence des ouvertures, mais aussi une explication claire sur pourquoi, par exemple, on ouvre une église avant d'ouvrir un cinéma. Pourquoi dans une église, il y a moins de cas de transmission que dans un cinéma, par exemple, ouvert à 50 % de la capacité. Même chose pour une salle de théâtre, pour une salle de spectacle. Alors, aujourd'hui, son gros défi, ça va être de dire aux Québécois, regardez, voici là, le raisonnement qu'on a en ce moment. Voici ce que la santé publique nous dit. Et s'il vous plaît, continuez de nous suivre. Mais pour qu'on continue de suivre le gouvernement, ça va prendre de la cohérence, des explications claires aussi. Et ça, vraiment, c'est son gros défi aujourd'hui.
Par ailleurs, parlons de Lionel Carman avec un plan là, qu'on nous a annoncé hier, mais finalement, on réalise qu'on continue de faire ce qu'on a déjà fait.
Oui, on fait un petit peu plus de ce qu'on a déjà fait, notamment les cliniques mobiles là, dans des autobus, par exemple, qu'on va redéployer. Tant mieux. On peut juste dire tant mieux s'il y a une clinique qui existe à un endroit où il y a des gens qui, normalement, ne seraient pas allés se faire vacciner, vont peut-être arriver, la voir, poser des questions. Et si on peut vacciner 3-4 personnes, une centaine de personnes au cours des deux prochaines semaines grâce à cette clinique mobile-là, c'est quand même 100 personnes qui vont être mieux protégées et qui vont être mieux protégées, qui vont peut-être protéger aussi leurs proches. Ceci dit, on serait peut-être dû de penser à une autre stratégie qu'uniquement la main tendue. Là, on va me créer une ligne téléphonique pour répondre aux questions sur les vaccins. Je te dirais, Marianne, ceux qui avaient des questions importantes sur les vaccins, ben ils sont allés sur YouTube au cours des deux dernières années et de déprogrammer ça va prendre plus qu'une ligne téléphonique gouvernementale payée par le gouvernement, alors que ces gens-là ont des craintes par rapport au gouvernement. Je me dis, est-ce qu'on est vraiment dû encore à faire une main tendue? Il n'aurait pas fallu faire un peu plus d'accompagnement? Il y a des groupes communautaires qui disent, nous, on va cogner aux portes. Nous, il y a des ressources qu'on utilise pour aller cogner aux portes des gens dans des quartiers où on sait que la vaccination, elle est moins grande, et on leur parle, on interagit avec eux, on leur pose des questions, on les écoute et ensuite, on est capable de trouver des réponses et c'est une façon de les convaincre, mais eux auraient espéré du financement pour être en mesure d'élargir ces services-là et de payer les ressources qui sont utilisées pour faire ce genre de travail-là. Donc, on est plus que dans la main tendue, on est plus dans la main derrière le dos, on prend par la main. Parce que là, la claque, elle s'en vient. La claque, ça va être l'amende des non-vaccinés. Mais entre la main tendue puis la claque, on pourrait quand même avoir des mesures entre les deux. Le gouvernement ne pourra pas dire qu'il a fait tout en son possible avant d'imposer cette amende-là si on utilise uniquement ce qui a été annoncé hier par le ministre Carman.
Par ailleurs, parlons de ces camionneurs. C'est quoi le convoi de la liberté?
Ouais.
Bon, on part déjà de l'Ouest. L'idée, c'est vendredi, donc, d'être sur la colline parlementaire, manifestation, etc. C'est un mouvement qui ne peut pas être ignoré, là.
Non, parce que si vous prenez la route, vous risquez de les voir, là, si vous essayez de traverser le Canada en ce moment. Après ça, ils sont quand même nombreux. Et ce mouvement-là, il faut quand même comprendre que c'est parti d'un mouvement de camionneurs. Il y a à peu près 10 % des camionneurs qui traversent la frontière canado-américaine qui ne sont pas vaccinés, donc qui ne peuvent plus traverser cette frontière-là parce qu'il y a une obligation vaccinale au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il faut comprendre qu'il y a réciprocité dans ce dossier-là par rapport à la vaccination et que le convoi des camionneurs est parti en mode « on est opposé à cette obligation canadienne-là ». Mais depuis, comme n'importe quel de ces mouvements-là, s'est greffé autour de ce mouvement-là beaucoup de anti-vaccins, de complotistes. Et plus ça avance, plus il y a ces greffes-là qui s'accumulent au point où, par exemple, il y a un GoFundMe, là, une campagne de sociofinancement qui a recueilli des millions de dollars, qui avait été partie par quelqu'un en Alberta associé au mouvement Maverick, mais qui n'est pas du tout une camionneuse ou associée à des camionneuses. Alors, il y a comme beaucoup de confusion. C'est devenu un peu un mouvement fourre-tout. Et là, ce que ça fait politiquement, bien, ça met dans l'embarras le Parti conservateur, parce que le chef Erin O'Toole, qui il y a deux semaines appuyait les camionneurs non vaccinés, demandait des accommodements, ne veut plus répondre. Est-ce qu'il va les rencontrer? Est-ce qu'il est d'accord avec leurs revendications? Il y a même de ses députés, dont l'ancien chef Andrew Scheer, qui a tweeté « Bravo aux camionneurs, bravo de défier cette mesure liberticide de Justin Trudeau ». Ça s'ajoute à un autre tweet qu'on a vu de Pierre Poilievre qui dit « Les gouvernements qui sont affamés de pouvoir, les gouvernements liberticides, il faut que ça arrête ». Donc, dans le Parti conservateur, on sent cette fracture-là aussi, cette mouvance-là qui appuie ceux et celles qui sont contre les mesures sanitaires. Mesures sanitaires qu'il faut quand même rappeler qui, pour la plupart, sont mises en œuvre par des gouvernements provinciaux qui sont pas mal conservateurs dans le Canada.
Alors qu'on voit justement le tweet d'Andrew Scheer.
Il dit, regardez
à
ça, là.
Suivre comme dossier.
Justin Trudeau est la plus grande menace à nos libertés au Canada. Quand même.
Exact, exact.
Le premier ministre, là.
À suivre, à surveiller. Merci beaucoup.
Salut, Marianne.
Cube Radio. Philippe Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio. Cube Radio. Culture et société.
Salut Anaïs.
Bonjour Philippe Vincent.
Alors, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avait de pas pires nouvelles, on va dire ça comme ça, pour le milieu de la culture.
Oui, c'est ça, de pas pires nouvelles, dans le sens qu'on semble voir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, on va pas trop dire dans quelle direction faut aller, puis quand est-ce qu'honnêtement tu vas la voir, cette fameuse lumière-là. Donc là, hier, lors d'une conférence de presse, c'est ça, elle a dit que, bon, ça s'en vient, on sait pas trop quand ça va se passer, mais elle travaille fort, évidemment, pour rouvrir les salles de spectacle qu'on attend le go officiellement de la santé publique. Là, en même temps, lorsque ça a été dit, beaucoup de gens se sont rappelés qu'un certain Arruda, l'an passé, avait été revenu sur ses paroles, disant, écoutez, moi, depuis le mois de novembre 2020, je disais, oui, on peut ouvrir les salles de spectacle, et finalement, tout a rouvert au mois de mars 2021. Donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on attend exactement? D'autant plus qu'on devrait, Philippe-Vincent, aujourd'hui, nous annoncer la réouverture notamment des salles à manger, tu sais, 4 personnes. On a les bulles, les restaurants qui ont travaillé fort justement avec les fameux plexiglas, mais c'est la même chose au niveau des salles de spectacle. Ça fait longtemps que les artistes se mobilisent, mais depuis, je te dirais, un mois sur les médias sociaux, là, plus que jamais, les artistes prennent la parole disant « là, on est écœuré, on est à bout, on a besoin de travailler, on a besoin de faire des sous, on veut justement faire notre art ». Donc, j'ai très hâte de voir quand est-ce que ces fameuses salles de spectacle-là vont ouvrir. Est-ce que tu es allé, toi, dans des salles de spectacle depuis les derniers mois ou tu t'es abstenu?
Non, ben non.
C'est ça. Ben non, mais il y en
a
beaucoup.
Pas pour cause de COVID, là, simplement pour cause de j'ai un bébé.
Ben, t'as un bébé, tu te lèves à 3 heures du matin.
Je lève à 3 heures, puis c'est un peu difficile de gérer tout ça, là, mais ça, c'est très personnel.
Ça, c'est très personnel, mais il y en a plusieurs bon, qui ne sont pas nécessairement sortis. Moi, je suis allée à quelques reprises. Je vais t'avouer qu'un Centre Bell, les Cowboys fringants, avait pas de masque. Donc là, si je peux comprendre encore là, surtout avec un Omicron qui se propage à la vitesse de la lumière, je veux dire, on peut avoir une réticence, mais contrairement à d'autres salles de spectacle, à l'Olympia, où c'était vraiment des formules cabaret, tout le monde portait le masque, était séparé vraiment selon des bulles. Donc là, tu sais,
ouais, honnêtement... Il y a peut-être au Centre Bell là, qu'on a eu des témoignages de monde qui sirotait leur bière pendant 7-8 heures. Là.
Ben oui, c'est ça. Centre Bell, ça, j'y étais au Cowboy Fringant, il y avait moins de masques. Il y avait une personne qui portait un masque sur 10. Là. Donc là, ça, j'en conviens, mais dans les plus petites salles de spectacle, tu sais, c'est des Louis-Jean Cormier qui ont joué devant une salle de 15 personnes presque avec les masques où on pouvait même pas prendre un verre d'alcool justement pour s'assurer vraiment que tout le monde gardait la distanciation, gardait les masques. Bref, tout a été mis en place au niveau des salles de spectacle. Donc là, on attend le hockey. Je peux te garantir que si aujourd'hui on annonce officiellement la réouverture des salles de spectacle au niveau du sport, pas des salles de spectacle, mais des salles à manger, et au niveau du sport, au niveau de la culture, on va taper du pied sur un moyen temps. T'sais, depuis le début, les artistes se sentent négligés. On a l'impression qu'on sacrifie régulièrement les salles de spectacle, alors que la question se pose toujours, y a-t-il eu éclosion? Et jusqu'à maintenant, on n'entend pas de réponse positive à cet égard. Il n'y en a pas eu.
Bon, on parle d'un nouveau festival de musique à Montréal.
Hey, ça, j'ai hâte de voir ça. C'est Olivier Primo qui est derrière le Beach Club, notamment Métro, le festival de rap. Et hier, en début de journée, elle dit, on vous annonce quelque chose en fin soirée. Hier, ça a été annoncé. Donc, cet été, ce sera pour une journée. On n'a pas beaucoup de détails, mais c'est fuego, Philippe Vincent. Donc là, semble-t-il qu'il n'y aura pas nécessairement de Métro. Ce sera remplacé par un festival de musique latine. Est-ce qu'on va avoir une Shakira? Là, on n'a aucune idée. Donc, ce serait une journée seulement, sans doute à la même place que Métro, qui est un endroit très cool pour faire un festival, vraiment, le festival de musique urbaine, donc sur l'esplanade du parc olympique. Plus de détails à venir, mais ça augure. On dit qu'il va faire chaud à l'été 2022, c'est ce qu'a annoncé hier Olivier Primo.
Bon, puis là, il y a des gens qui réclament la fin de l'émission Huissier sur Nouveau.
Puis je comprends. Honnêtement, j'ai écouté ça ce matin en me levant. Je voulais vraiment me faire une tête sur l'émission que je vais t'avouer. J'avais jamais écouté ça. Alors, huissier, on en est à la 5e saison quand même. Donc, ça porte bien son nom. Là. Si on voit des huissiers qui vont éjecter des gens de leur demeure, qui vont aller rechercher des voitures non payées. Et là, il y a quand même 112 Et les Vincent, organismes communautaires, c'est énorme, qui demandent d'arrêter la diffusion, d'arrêter la production, de retirer ce qu'on retrouve sur Internet en lien avec huissier, parce qu'on profite un peu, puis c'est vrai, de la santé mentale des gens. Et là, je t'explique, on voit pas évidemment le visage de la personne qui est dans la maison puis qui accueille le huissier, mais très souvent, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou du moins qui ont des problèmes monétaires. Et ce ne sont pas tous les huissiers qui sont sympathiques. Des fois, on nous dit, ah, telle personne a tel syndrome. Mais moi, j'aimerais ça qu'on m'explique. Ce sera un bon moment d'éduquer, tu comprends, de dire tel syndrome fait en sorte que cette personne-là, elle va accumuler les déchets à la maison. Mais non, on fait juste nous dire telle personne a tel syndrome et là on voit une maison qui souvent est sans dessus dessous et ça semble vraiment exploité. Puis je veux dire, il y a des cas d'écoute parce qu'on est curieux, on a envie de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais en soi, ce matin, j'avais un malaise de voir des gens, c'est ça, qui souvent
d'exploiter la misère humaine.
Ben exactement, qui tentent d'expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à payer leur voiture. Tu sais, est-ce que j'ai vraiment besoin de voir ça? Avons-nous besoin? C'est leur intimité. Puis non, on voit pas le visage, mais si tu habites dans le quartier, tu reconnais la maison, tu reconnais la personne. Donc, on demande de cesser automatiquement, directement, la production de cette émission-là.
Et en terminant, le concert de Dua Lipa est reporté en juillet.
Il est reporté en juillet. Pour l'instant, février, on devrait voir Billie Eilish, Imagine Dragons, plusieurs artistes au Centre Bell. Dua Lipa a fait l'annonce hier, donc ce ne sera pas le 22 février, mais plutôt le 25 juillet. Elle qui est aussi en tête d'affiche d'Oceaga, donc ce sera une grosse semaine, elle, à Toronto et à Montréal. Mais j'ai quand même trouvé ça cocasse. Il y a plusieurs personnes qui ont dit « Bon, ben on n'aura pas à se compliquer la vie avec les manteaux, puis on va pouvoir mettre des kits un peu plus beaux qu'un col roulé pour aller voir Dua Lipa. » Donc là, tu sais, hier,
mais c'est beau des cols roulés.
Ben oui, c'est beau des cols roulés, mais au Centre Bell, quand tu danses, c'est chaud, tu comprends?
Ouais, c'est toi et ton masque.
Surtout avec le masque. Bon. Donc, c'est ça. Les fans ont dit au moins, c'est pas annulé, c'est reporté à l'été prochain, 25 juillet.
Merci, Anaïs.
Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Salut Jean-François.
Salut Philippe-Vincent.
Alors, 8-2.
Je vais te parler de la série Les Honorables à TVA, qui est très, très bonne. parce que c'est là que je suis allé me réfugier en troisième.
Non, mais je te le dis, enregistre des courses de ski alpin. C'est le fun de ski alpin. Tu pourrais même t'intéresser au ski de fond les soirs de match intéressants comme ça. Là. Ça peut être le fun du ski de fond.
Hey, non, mais pour vrai, là, on en fait des blagues, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'organisation qui va donner un coup de barre à un moment donné. Là, tout le monde est en place. Les
qu'est-ce
DG,
qu'il va faire?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais comment
en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais même pas qui peut faire quoi, en fait.
Mais il y a quelque chose dans le vestiaire, au-delà du manque de talent, parce que oui, il y a un manque de talent. Reste que quand tu perds 8-2, c'est parce que tu t'es pas présenté.
Ouais.
Quand tu fais toujours les mêmes erreurs, des revirements, on est rendu à 41 matchs de jouer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il en reste encore la moitié. On est juste à la moitié de la saison, imagine. Mais on commet toujours les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'il y a un message qui passe pas ou des joueurs qui veulent pas l'appliquer parce que ça demeure des joueurs de Ligue nationale, là. C'est,
qui sont bien payés, qui ont fait ça toute leur vie, qui normalement sont encadrés.
Ben, on a moins de talent, mais pas moins de talent au point de manger des varlopes comme ça. Le Canadien, dans cette semaine, juste cette semaine, en quatre parties, a donné 189 lancers à l'adversaire. C'est presque 50 en moyenne. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est pas normal qu'en fin de première période, ce soit toujours 22-6 les lancers. Là. Je veux dire, ça veut dire qu'on... Ça rend, tu sais, mettez un système de trappe, mettez quelque chose pour faire en sorte d'arrêter l'hémorragie, là. Fait que, bref, il y a, au-delà du manque de talent, il y a quelque chose de pas clair dans ce vestiaire-là. Puis oui, en plus de ça, ben, il y a le manque de talent, puis il y a les jeunes qu'on met partout. Quand tu penses qu'hier, c'était Caden Primo et McNevin, nos deux gardiens. D'ailleurs, les deux, évidemment, ont touché au filet vu que ça a été une varlope, fait que Primo s'est fait chasser de la rencontre. Mais tu sais, à deux, ils ont 15 parties d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, on est loin du Canadien, là, de Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard, etc. Ça fait pitié. 8, 26 et 7, c'est notre fiche depuis le début de l'année. C'est effrayant.
Wow!
Quand tu le regardes de même, 8 victoires en 41 matchs. Là. Puis on continue quand même d'écouter les rencontres, c'est formidable. Donc le Canadien qui rentre à la maison et qui va venir jouer des matchs à huis clos ici, là, ça a été annoncé hier. Donc les trois prochains affrontements du Canadien vont être au Centre Bell, mais évidemment il n'y aura pas personne dans les estrades.
Bon, des fois on peut
dire... C'est peut-être mieux de même, hein?
Ben, ça, c'est ça. Au moins ils ont une excuse...
Moi, j'avais, pour moi, la UE aurait été proche.
Oui, il n'y a plus de chandail à acheter sur la glace. Ça va quand même moins bien pour les Flyers qui ont poursuivi leur longue série de défaites. C'est quoi? Ils sont rendus à 12 matchs, eux autres? 12 défaites?
12 défaites de suite. Et ça, c'est encore pire que le Canadien. Défaite de 3-1 contre les Stars. Puis tu sais, là-bas, le ménage, on l'a fait. Là. On a chassé Alain Vigneault, Michel Therrien. On les a envoyés à la maison. Ils sont présentement en train de jouer au golf en Floride en recevant leur chèque parce qu'il y avait des contrats à long terme avec l'équipe. Et malgré ce coup de barre-là, il n'y a rien qui a changé. Je vous en parle parce que... faut se consoler, hein? On est quand même mieux avec le Canadien. Et je vous en parle aussi parce qu'il va falloir les surveiller. Ils s'en viennent nous rejoindre dans la cave du classement pour se battre pour la dernière place.
On est là.
Ça va être une lutte à trois.
J'y reste.
Avec les Coyotes et le Canadien.
On ne pourrait pas amener les Sénateurs aussi. Ce serait un beau petit duel, un petit quatuor là, intéressant d'équipes qui ont de la misère. Parle-moi de tennis. Ça n'a pas bien été aussi bien qu'on l'aurait voulu pour Shapovalov, mais ça n'a pas non plus très mal été. Il a livré tout un match contre Nadal hier.
Ben c'est ça. Il était contre Rafael Nadal. Fait que, à un moment donné, il faut quand même en prendre et en laisser. Là. Il a perdu, mais il s'est bien battu. Ça s'est terminé en 5 manches. Donc, il a perdu les deux premières, 6-3, 6-4. Et là, tu sais, Shapovalov, c'est un intense. Hein. Il a le sang chaud. Et là, il a gagné le troisième set 4-6. Là, il était tout feu, tout flamme. 3-6 dans la manche suivante. Mais Rafael Nadal, dans la manche ultime, il est dur à battre. Donc, il est revenu avec un set de 6-3. Donc, il s'incline en quart de finale contre son idole, Rafael Nadal. Donc, très beau parcours pour Shapovalov. On va continuer de suivre Félix Auger-Aliassime ce soir.
C'est ce soir, ce match-là.
Contre Medvedev.
Ça va être assez difficile. Sinon, la Fédération de hockey qui va peut-être congédier son stratège aux médias sociaux parce qu'elle a dévoilé l'équipe de Team Canada par erreur.
Ouais, ça a été mis sur Twitter hier. On va voir si c'était bien ça, parce qu'aujourd'hui, on va connaître la vraie formation, mais il m'a dit de quoi ça avait pas mal l'air d'être officiel, si bien que le tweet a été supprimé dans les secondes qui ont suivi, mais le mal était fait. Alors, si c'est le cas, il y a 5 anciens joueurs du Canadien qui s'y retrouvent, dont David Desharnais, Stahl, qui était avec nous autres l'année passée, Mike Barberio, le Québécois, Jordan Wheel, qui a fait beaucoup jaser dans le temps où il était avec le Canadien, et Daniel Carr aussi serait de la formation canadienne. Ça va être dévoilé aujourd'hui.
Et un petit mot sur Émilie Castonguay, qui s'en va du côté des Canucks.
Ouais, j'en ai beaucoup parlé avec Mario hier, là, fait que je voulais pas trop revenir là-dessus, mais donc c'est... Première femme à 38 ans, imagine, à se retrouver assistante DG avec les Canucks de Vancouver. Et il y a des articles partout, puis je voulais le dire, parce que, tu sais, des fois, on cherche des inspirations pour les jeunes filles. Donc, si vous êtes une maman, un professeur, un papa aujourd'hui, vous voulez stimuler votre enfant, il y a de la lecture, là, que ce soit sur le Journal de Montréal, dans la presse, sur tous les sites Internet, on parle d'elle, de son parcours, de quand elle a choisi de s'en aller quand même dans ce monde d'hommes. Et ce que j'ai bien aimé, là, c'est qu'elle dit, avec les Canucks, on n'a même jamais parlé une seule fois du fait que j'étais une femme. Donc, ça s'est concentré sur le fait que sa vision hockey, etc., etc., et ça n'avait pas l'air d'être un problème, le fait que ce soit une femme. Alors, c'est un beau parcours, c'est beaucoup d'adversité. Alors, c'est une belle lecture pour vos enfants aujourd'hui.
Merci, Jean-François.
Salut!
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
Cube Radio. Le commentaire de
Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe-Vincent.
Il fallait être calme hier si on regardait la bourse. Là.
Hey boy!
Il me semble qu'à midi, là, je me disais, hey boy, la correction se poursuit. Puis finalement, j'ai regardé ça à 4 heures. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Finalement, ça a fini dans le vert.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle être bipolaire. Puis pas à peu près. Oui, effectivement, hier matin, c'était la grande débandade. Le Dow Jones perdait à un moment donné 900 points. Et puis, il a fini la journée en hausse de 100 points. Fait que tu vois, genre, là, c'est un virement de 1000 points, ce qui est énorme. Alors, c'est la même chose pour la grande majorité des indices nord-américains. Alors, écoute, hier matin, au creux de la séance boursière, le Nasdaq, il perdait, par rapport à son récent sommet historique, 19%. 19%, là, ça, c'est énorme, là. Quand on franchit la barre du 10%, on parle techniquement, là, en langage boursier, d'une correction boursière, là. Puis quand on touche les 20%, là, on parle de marché baissier. Donc, le Nasdaq, il a vraiment, là, frôlé l'entrée dans un marché baissier. Et puis, en ce qui concerne le principal indice, le plus important indice boursier au monde, qui est le S&P 500 des 500 plus grandes multinationales américaines, là, lui, il se repliait au creux de la séance hier à 12,4%, donc ce qui est énorme, puis le Dow Jones de 10%. Puis nous, à la Bourse de Toronto, on était un peu plus calme. On perdait par rapport à notre récent sommet 8,6%. Mais toujours est-il qu'en après-midi, il y a eu un grand virement de tendance. Tous les indices ont récupéré une grande portion de leur perte de la journée. Alors, toujours est-il que les indices américains, écoute, ils ont même fini à la hausse, il faut le faire, tandis que la bourse canadienne légèrement à la baisse. Mais c'est pas fini, hein, pas ça. Tu sais, je regardais ce matin à l'ouverture, en principe, les marchés nord-américains devraient rouvrir de nouveau en baisse. Hâte de voir jusqu'où la baisse pourra aller. Et il faut dire que les mêmes problèmes, ce qui explique pourquoi on est en correction à l'heure actuelle, du moins du côté des indices américains, là. La raison, premièrement, il y a la Réserve fédérale américaine dont les hauts dirigeants se réunissent aujourd'hui et demain, et puis que les grands investisseurs institutionnels souhaitent avoir exactement où est-ce que la Fed veut aller, combien de hausses de taux d'intérêt allons-nous subir cette année et l'an prochain. En fait, bref, on attend des précisions concernant la Réserve fédérale américaine. Et ensuite, c'est sûr que la menace d'invasion par la Russie de l'Ukraine, aussi, ouais. C'est sûr que ça pèse lourdement. D'autant que les Américains, tout le monde est sur le pied de guerre, finalement, là. Fait qu'on attend. Et moi, je douterais beaucoup qu'on se lance en guerre, mais on ne sait jamais. Des fois, on perd la boule, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, donc, ça reste très négatif pour le marché boursier. Et puis aussi, il y a la grande déconfiture des crypto-monnaies. Ben, c'est pas compliqué. Si tu prends leur porte-étendard, qui est le Bitcoin, ben il a fondu de 50% depuis son récent sommet.
Ah ouais.
Je répète, 50%. Alors, voilà pour la bourse bipolaire. Puis ça devrait se poursuivre sur la même lignée de la bipolarité.
On va regarder ça aujourd'hui. Dernier mot sur les Québécois qui gagnent moins de 56 000 $ là, vont recevoir leur chèque du gouvernement pour les aider à combattre l'inflation.
Oui, c'est ça. C'est une mesure qui a été annoncée l'automne dernier par le ministre Éric Girard pour compenser évidemment le coût de la hausse du coût de la vie. Et ça revient à 200 $ par personne admissible. C'est-à-dire, si tu es une personne vivant seule, là, tu vas avoir droit à 275. Puis quand tu es un couple, ben, c'est 200 $ par personne, ce qui fait un total pour le ménage de 400 $. C'est une mesure qui coûte 740 millions de dollars. pour aider les gens. En fait, en résumé, ceux qui ont droit à ça, c'est ceux qui reçoivent à l'heure actuelle le crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, il faut que tu gagnes un revenu quand même relativement faible.
Ouais, c'est ça. C'est pour aider justement ces gens-là qui ont peu de marge de manœuvre avec une hausse importante de pas mal tout ces temps-ci. Merci, Michel.
Merci, au revoir.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Michel Girard est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
Cube Radio.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE Radio. 1-877-CUBE Radio.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Voilà.
Bonjour.
Commençons avec ces histoires d'armes à feu. Là, il y aurait au moins 2000 armes à feu illégales en circulation à Montréal. Dans la presse, il y a un texte sur les pistolets à plomb qui ressemblent à de vraies armes à feu qui sont très populaires. Benoît, on est loin de régler ce problème-là.
Comme le disaient les astronautes, Houston, on a un sacramouille de problèmes. Là, vraiment, je cherche, là, allez lire ça là, dans le journal Montréal, c'est troublant. Comment c'est interdit d'aller enquêter à quoi assassiner. Réal Fortin du Bloc québécois avait proposé de mettre en place des patrouilles pour intercepter la contrebande. Écoute, jamais, là tu comprends pourquoi ça se fait pas, parce que les policiers vont se faire tuer. Il y a un sentiment d'impunité, on vend des armes à feu, le crime organisé est là-dedans, les mafias irlandaises, arabes, nomme-les, là, on apprend ça aujourd'hui dans le journal. Moi aujourd'hui, j'attends des réactions de deux personnes. Parce que là, on peut demander la fin du monde au provincial. Là, ça relève du fédéral. Alors moi, je veux entendre le prix Nobel, Mark Miller, qui est toujours prêt à nous faire la morale, nous autres au Québec, là, nous autres les racistes, les pas fins, le ministre des Relations couronne autochtone, et aussi Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique. Moi, je veux savoir ce qu'ils vont faire. Je veux le savoir aujourd'hui, là. Pas demain, pas dans un mois, pas un comité. On travaille à penser, à se prendre les mains, à se demander si il y a des gens qui meurent. Il y a un jeune encore qui est mort à Montréal. Ça se tire dessus. Les gens sont inquiets. Moi, je veux savoir, Miller et le ministre de la Sécurité publique au fédéral, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mario.
Ouais, c'est assez détaillé quand même l'article, hein, les rôles des mafias, puis des différentes mafias. Puis...
L'histoire de l'épicerie aussi, où tu peux en acheter dans le commerce en arrière.
Mais deux grosses livraisons des États-Unis par mois. C'est vieux, je voyais, je sais pas si vous avez vu, le nouveau maire de New York là, a fait une sortie, pas une sortie en règle, c'est commis lui personnellement à sortir les armes des rues. Vous allez dire, c'est tout un mandat dans une ville de New York, mais il y a une stratégie avec des policiers de terrain, des policiers de quartier qui vont aller dans les rues avec comme objectif de sortir toutes les armes à feu. On verra s'ils vont réussir ou pas à New York, mais certainement que le maire a fait une sortie, disons, qui a exprimé une volonté politique et il s'est commis personnellement comme jamais Valérie Plante ne l'a fait, là.
Parce que faut dire aussi, Mario, Philippe-Vincent, il y a un policier de 22 ans qui a été abattu. Il y en a un autre de 27 ans qui a été blessé.
À New York, tu parles absolument.
C'est ça, à New York, puis il intervenait. Tu sais, il allait aider une mère qui se faisait attaquer par son propre fils. Puis l'augmentation des fusillades à New York, là, c'est... ahurissant, là. C'est extraordinaire. Ça n'a pas arrêté en 2021. Puis effectivement, la mairesse, si, est pas aussi... elle prend pas aussi position de façon aussi forte qu'à New York.
Mais, je veux dire, c'est Benoît a raison, là. une fois qu'on a parlé de la mairesse de Montréal ne gère pas la frontière. Fait qu'on peut demander à la mairesse de prendre son écope puis d'essayer de vider la chaloupe. Mais
si on colmate pas le trou,
c'est ça. Si on colmate pas le trou, si l'eau continue à rentrer, ça finira jamais là.
Hey, tu sais, hier, tu parlais de Mario du projet de loi C5 là, abrogation des peines minimales obligatoires, mm-hmm. des PMO. Je suis allé voir ce matin. Je vais juste vous lire le début là pour vous faire rire. Le gouvernement reconnaît qu'il existe un racisme systémique dans le système de justice pénale du Canada. Nous avons entendu les Canadiens, les tribunaux et les experts en justice pénale et nous avons vu les preuves de la représentation disproportionnée des Autochtones ainsi que des Canadiens noirs et des membres des communautés marginalisées, tant comme contrevenants et que victimes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les peines pour ceux qui ont des armes à feu. Là, il y a toute une série de délits qui aujourd'hui n'ont plus, qui n'auraient pas sous ce projet de loi-là, qui n'auraient plus de peine minimale obligatoire.
En même temps, le gouvernement est minoritaire. Fait que techniquement, ça va être dans la balance de l'NPD.
C'est qui va l'appuyer, on n'en doute pas. Là. Moi, cette loi-là, je comprends là, qu'on veuille, mettons, au niveau de la... qu'on pourrait appeler de la justice là, élémentaire, des petits crimes, des petits délits, dire, ben regarde, là, il faut avoir une approche, on veut pas là, criminaliser tout le monde, en fait, les rendre plus criminels par une première intervention auprès d'un jeune de 18 ans, ça, il y a un bout, je peux comprendre, là, et qu'on tienne compte que dans des groupes marginalisés, la criminalité est une option. Mais quand t'es rendu à de la criminalité par arme à feu, là, que tu tires mm-hmm. sur le monde... Je veux dire, là, ça n'a plus rapport, là, que tu sois noir, autochtone, blanc. Je veux dire, là, on est rendu à des crimes beaucoup trop graves pour commencer à dire, ah ben là, c'est plus une intervention sociale, là. C'est une intervention criminelle, puis elle peut pas, elle doit être sans nuance. Cette loi-là, c'est vraiment, mais tu sais, c'est ahurissant que pendant qu'on parle d'armes à feu à Montréal, tu dis, le seul projet de loi, la seule action du gouvernement fédéral, présentement, qui est en cours, c'est une réduction des peines, c'est de rendre ce crime moins grave. C'est ça qui est à l'étude présentement. Aujourd'hui, là, à Ottawa, ce qui est à l'étude devant le Parlement, c'est ça.
Ouais. Et alors que dès que tu mets la main sur une arme à feu, puis même dans la presse, là, il y a un grand dossier sur les fusils à plomb, les pistolets à plomb. Moi, j'en ai déjà parlé. T'achètes ça chez Canadian Tire, t'achètes ça chez Walmart, t'achètes ça n'importe où. Alors que ça ressemble à des vraies armes à feu et qu'il y a des jeunes qui utilisent ça pour intimider les autres, pour tirer sur les autres, pour faire des invasions de domicile, pour régler des comptes, pour... Et on laisse faire ça, on laisse vendre ça. À quoi ça sert les guns à plomb? Pouvez-vous me dire, c'est quoi le sport du gun à plomb? Tu vas tirer sur une planche toute ta vie avec
des
un gun à plomb?
Non, mais tu peux. Il y a des écureuils.
Mais à Montréal,
À Montréal, il n'y a pas tant d'utilisation. Tu tires sur les écureuils. À Montréal, il n'y a pas tant d'utilisation. Mais en campagne, ça peut être utile.
Ben oui.
Non, c'est vrai. Hey, je vous confirme que François Legault va faire le point à 14h. Bon. Cet après-midi pour parler notamment de cette levée de certaines mesures. On devrait parler de sport, mais, okay, restaurant.
Non, mais attends,
je vais juste vous confirmer, ça vient d'arriver. Là.
Parce que imaginez là, s'il n'y avait pas de pandémie présentement. Là. Ça, c'est ça le sujet. Là. C'est les fusillades, c'est la contrebande des armes à feu, c'est la sécurité publique. C'est ça là, qui devrait être primordial aussi dans l'actualité. Je comprends la pandémie, pis c'est important, mais ça, là, on le voit depuis 2 ans à Montréal, au Québec, les armes à feu...
Ah, pis ça a été aggravé en plus avec la pandémie. Puis
je pense que là, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement fédéral prennent la parole. Mais là, ils vont dire, Trudeau, on travaille, on est assis, on se prend les mains, on discute, on veut pas discriminer, donc on va voir ce qu'on va faire.
On est en train de continuer à travailler.
Ben oui. Non, mais en même temps, ça peut être de l'autre côté, puis ça peut être Andrew Scheer, ancien chef du Parti conservateur, qui félicite les camionneurs non vaccinés en disant que Justin Trudeau est la pire menace qu'on a à notre liberté, Mario, là.
Ouais, mais ces camionneurs là sont en train de devenir, je pense plus au Canada anglais qu'au Québec là, mais une espèce de symbole. Si on en juge par les dons qu'ils ont reçus, puis maintenant on sait qui est la dame là, qui était derrière ces dons au point où GoFundMe a pris panique puis a gelé l'argent. Mais ils sont en train de devenir une espèce de symbole. Et pour le Parti conservateur, qui n'a jamais pris une position claire là, sur la vaccination, sur la pandémie, sur la lutte à la pandémie, c'est en train de complètement diviser leurs troupes, complètement diviser le parti, rachever ce qui restait, les derniers lambeaux de leadership de Renault Tool. Parce que là, on sait sincèrement, on sait plus c'est quoi. Là, est-ce que le Parti conservateur est le parti de la défense des non-vaccinés? En fait, le Parti conservateur semble terrorisé là, par le 5% que Maxime Bernier leur a enlevé. Et la grande priorité semble d'aller rechercher ce 5%-là, quitte à perdre dans le reste de la population, dans ce qu'on pourrait appeler les électeurs plus au centre, quitte à perdre tout le monde.
Benoît?
Oui, tantôt, Philippe-Vincent, tu l'expliquais à LCN, là, les camionneurs veulent rentrer au pays sans être vaccinés, sauf qu'ils peuvent pas aller aux États-Unis sans être vaccinés, si je comprends bien.
Exact.
Qu'on voit pour la liberté de quoi, de contaminer les autres. Là, cette gang-là, encore une fois, des prix Nobel, qui représente une minorité des camionneurs, faut le dire aussi. Mm-hmm. Ben, je pense, comme les autres, les camionneurs sont vaccinés, en grande majorité.
À 90%.
Ouais. Là, ils demandent des chiffres au gouvernement puis à la santé publique du Canada. Là. Il y a combien de camionneurs qui ont contaminé les autres? Ils nous donnent, eux autres ne nous donnent pas de chiffres non plus. Eux autres, ils justifient pas leur action démesurée là, de traverser le Canada. C'est le politique de droite là, du Rock, de l'Alberta. Il y a quelques entreprises qui disent là, arrêtez, là, on va être en pénurie de marchandises. Déjà que c'est le cas, on le voit sur les tablettes, là, on voit l'effet sur les tablettes. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que c'est encore la main tendue ou le poing fermé? Là, la main tendue, ça n'a pas l'air à marcher. Là. On se fait cracher dans la main plus souvent qu'autrement. Tu fais quoi pour discuter, pour négocier avec ça? Et le représentant de cette gang-là, ce qui devrait être Erin O'Toole, ben, comme dit Mario, on ne sait pas sur quel pied il danse. Fait qu'on ne connaît pas. Là, c'est Andrew Scheer. Andrew Scheer. Celui qui faisait peur aux enfants quand il souriait. C'est lui qui va prendre le contrôle de ce mouvement-là.
Mais dans tous les partis, mettons hier, là, Catherine Dorion là, a fait une montée de lait. Là, je comprends entre les lignes qu'elle veut la réouverture immédiate de tout le secteur. Elle demande des études qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Là, des études scientifiques démontrant que la santé publique a fermé les salles de spectacle, l'effet sur la pandémie et tout ça. T'sais, donc, dans tous les partis, on a de la misère, parce qu'officiellement, tu parles à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est non, faut écouter la santé publique, faut écouter la science, oui, on est d'accord avec les mesures sanitaires, faut avoir de la prévisibilité, mais là, tout à coup, oups, il y a une de ces députés qui sort, puis qui laisse entendre que la santé publique, c'est n'importe quoi, qu'on fait n'importe quoi, qu'on ferme les salles de spectacle qu'on n'aurait jamais dû, elle dit pas comme ça, mais elle laisse entendre en disant, là, en criant une espèce de... Parce qu'on doit appeler ça un complot, mais que tu sais que ça aurait été décidé à l'aveuglette, puis qu'on n'a pas d'études scientifiques pour tout ça. Donc c'est quand même un exploit peut-être pour M. Trudeau et M. Legault, les deux premiers ministres, d'avoir gardé dans les deux cas, d'avoir gardé leur monde, d'avoir gardé leurs troupes unies, parce que les députés puis tout ça devaient recevoir toutes sortes de pressions, de toutes sortes de monde fâché. C'est épouvantable la gestion de la pandémie. Mais dans les partis d'opposition, on échappe. Là, des députés qui, à un moment donné, partent d'une initiative personnelle le soir, puis sortent complètement. Alors, comme ils gouvernent pas, on voit ça pas si grave, là. Mais je veux dire, c'était des partis gouvernementaux. Si les conservateurs étaient au pouvoir, au Québec solidaire, je veux dire, Catherine Dorion, elle ferait quoi? Elle démissionnerait, si elle était ministre de la Culture, elle ouvrirait les salles de spectacle à l'encontre de la santé publique. Qu'est-ce que ça signifie, là, comme des sorties comme celle-là? On se le demande, là.
Ça signifie la fin du monde, Mario, Philippe-Vincent. C'est la fin du monde. Quand t'es rendu d'avoir une députée de gauche, de la gauche, grosse gauche, qui parle comme une députée de l'extrême droite ou la droite de l'Alberta...
Il y a quand même une différence entre demander la réouverture des salles de spectacle et dire que le premier ministre est le plus liberticide et la plus grande menace à nos libertés.
Non, mais les deux demandent la même affaire. Les deux demandent.
Catherine Dorion dit pas il faut que les salles de spectacle rouvrent pour les non-vaccinés puis que tout le monde puisse y aller de façon générale. Andrew Scheer demande que des gens non-vaccinés puissent aller aux États-Unis, revenir au Canada sans problème, alors que l'autre, elle dit pas genre plus de masque, plus de passeport vaccinal.
Non, mais Catherine Dorion, là où ils se rejoignent, c'est à laisser entendre, c'est un peu ce que fait toujours Éric Duhem, à laisser entendre que les mesures. C'est du n'importe quoi, là. Tu comprends? Elle a dit, c'est fait à l'aveuglette, t'sais. Hier, je parlais de ça avec le docteur Desage. Il y a souvent des gens qui reprochent que les fermetures de restaurants, de salles, peu importe, tu sais, que c'est non scientifique, qu'on n'a pas d'études. Puis il disait, tu sais, il était formel sur le fait d'écouter la science. Puis c'est même une science, là, je disais, qui remonte, là, avant la grippe espagnole. C'est pas une science compliquée. T'as une pandémie, t'as donc une propagation rapide d'un virus. Il faut que tu évites les lieux de rassemblement. Il faut que tu fermes les lieux de rassemblement. On l'avait fait en 1918-19 avec la grippe espagnole. On savait ça, qu'il fallait fermer les lieux de rassemblement. Alors, il reste que Catherine Dorion conteste une science qui a plus d'un siècle. Évidemment, elle, en se disant scientifique, parce qu'elle a dit qu'on me prouve par des avis scientifiques qu'il fallait fermer les salles de spectacle, mais elle fait une sortie très anti-scientifique, une science qui existe depuis plus d'un siècle, qu'il faut fermer les lieux publics pour éviter les rassemblements.
Alors qu'elle prouve rien, elle. Elle ne prouve rien. Elle prouve pas. Elle arrive pas avec des chiffres scientifiques pour dire voici ce qui serait arrivé si on avait laissé les salles de spectacle ouvertes. Voici le taux de contamination.
Elle
en offre pas plus. Ben oui, mais c'est ce qui est pas sain. Puis la référence de Denis Goulet, là, qui a écrit sur les pandémies, les épidémies, disait exactement ça. Puis je l'ai lu là. En 1918, là, les normes, les mesures sanitaires étaient les mêmes. De pas se rassembler, d'éviter les groupes, tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Ça prend pas un prix Nobel de comprendre ça. Mais quand on arrive puis on exige une chose sans proposer une autre en temps de pandémie. C'est un peu boiteux là, comme intervention.
Parlez-moi de cet effort pour aller rejoindre les non-vaccinés de Lionel Carman. Au fond, on fait un peu de ce qu'on a déjà fait, là, les cliniques mobiles. Là, on va envoyer des dépliants, puis on va donner une possibilité aux gens d'appeler le gouvernement pour qu'on les convainque que se faire vacciner, c'est bien. Est-ce que ça va fonctionner, vous pensez?
Pour leur dire quoi, là? Les supplier? Moi, j'aimerais ça que l'Agence du revenu ait la même méthode avec nous autres, tu sais. Envoyez donc, payez donc vos impôts. Soyez donc fins, là. Comprenez donc.
Appelez-nous si vous avez des questions sur vos impôts.
Il n'y aura pas de conséquences, là. On ne veut pas de chicane, là, tu sais. Hey, là, on fait quoi après, là? On leur donne 1 000$ la dose? Un voyage dans le Sud organisé par Kevin Awad? Participation aux tricheurs? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Une statue.
Ben, une statue, c'est ça.
Mario.
Non.
Mais, ouais. Non, je comprends, mais il faut essayer quelque chose, là, t'sais, il faut tendre la main. Je suis convaincu que ça va marcher, le résultat sera pas zéro, il va y avoir des résultats, mais le ministre Carman a refusé hier de s'avancer sur un chiffre, là. Il reste 540 000 personnes, puis on comprend que dans les 540 000, là, c'est beaucoup plus difficile, là. T'es dans des groupes où chaque tranche de 5 000 ou chaque tranche de 10 000 devient un exploit, donc est-ce qu'avec cette opération... C'est quoi qu'on vise, là? Est-ce qu'on serait content de 40 000? Est-ce qu'on serait content de 50 000? Est-ce qu'on rêve de 100 000 nouveaux vaccinés? Tu sais, bon, sincèrement, je le sais pas, mais je suis convaincu qu'on va aller en chercher quelques milliers. Il faut tendre la main. Probablement qu'on se dit que cet effort-là est nécessaire. Je me demande juste... Je sais, là, j'ai entendu tous les argumentaires sur des gens très très en marge de la société, par exemple des immigrants récents qui parlent pas bien ni l'anglais ni le français, donc il y aurait une information insuffisante par rapport au vaccin. Mais je sais pas jusqu'à quel point on exagère ça. Je sais qu'il y a des gens marginalisés, mais quand tu y repenses, écoute, ça fait un an qu'on parle rien que de ça, dans tous les pays, dans toutes les langues, de toutes les manières.
Ça fait 2 ans.
Ouais, non, mais pas de la pandémie, du vaccin, d'un vaccin disponible. Ouais, ouais. Mais Benoît, sincèrement, là, je veux dire, ces gens-là, mettons, dans la dernière année, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont eu des aliments? Ils ont été capables de les trouver? Ils ont trouvé l'épicerie, les sous, l'unité monétaire du pays, le dollar canadien, ils ont payé. Je veux dire, tu sais, il y a un point, Benoît, pour vivre dans un pays et survivre, faut que tu saches quelques affaires, Et tu dis, OK, puis le vaccin, non, ça, pas du tout.
Mais j'avais l'impression hier qu'on n'avait pas nécessairement le meilleur portrait de la situation. C'était pas clair encore. Il y en avait combien de ces gens-là, combien d'itinérants, par exemple, combien d'allophones. Là. Donc, j'ai hâte de voir si ces efforts vont fonctionner. Messieurs, bonne journée. On écoute à 2 heures, on s'en reparle demain.
Oui, certainement. Salut.
Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table.
Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
C'est confirmé, François Legault, Christian Dubé, Luc Boileau vont faire le point à 14h cet après-midi sur ce déconfinement qui va s'amorcer, notamment avec le sport chez les jeunes, les restaurants. On risque de parler de lieux de culte aussi et d'avoir une séquence là, pour la suite avec salles de spectacle, cinéma et autres. Et toute cette économie qui espère ouvrir plus vite que plus tard. On va en parler par contre de ce qui se passe dans les hôpitaux, hein, parce qu'on a parlé dans les deux dernières semaines du pire de la cinquième vague, les hôpitaux qui étaient au bout du rouleau. On en est où aujourd'hui alors qu'on va commencer à parler de déconfinement dès lundi prochain? La docteure Laurie Robichaud, qui est urgentologue à l'hôpital Général Juif et vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Madame Robichaud, bonjour.
Bon matin, M. Foisy.
Comment ça va en ce moment dans les hôpitaux de façon générale au Québec, là? Est-ce que le pic est passé, le pire est derrière nous et ça commence à aller un peu mieux ou c'est encore très difficile?
Bien, je voudrais qu'on est probablement sur un genre de plateau au niveau du pic. On n'est certainement pas encore dans la pente descendante qu'on veut voir. On le voit par les chiffres qu'on voit tous les jours, là, avec des admissions et des sorties qui s'équilibrent à peu près là, dans les derniers jours. Fait que, puis pour que je vous dirais, pour la pression pour le système de santé, bien, on est un peu sur le pilote automatique, je vous dirais, en ce moment. Là. Fait que c'est pas une situation qui est idéale. On est encore... encore bien occupé par ce gros pic de COVID de cette cinquième vague. Toutefois, je vous dirais que c'est bien possible qu'on ait atteint le pic à ce moment-ci.
Mais avez-vous l'impression que, là, vous parlez de ce plateau qui semble vouloir descendre à peine un petit peu, là, on risque à deux heures de nous parler de projection de l'INSPQ notamment, où on va nous dire, je présume, là, si on parle de réouverture, que ça va aller mieux, que ça va mieux et que la tendance va se maintenir et que d'ici une semaine, on devrait être en train de baisser. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable du point de vue terrain? Là, parce que là, il y a le point de vue statistique dans un bureau où on étudie et il y a le point de vue terrain. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Sentez-vous que ce plateau-là, on voit le bout et on voit que ça commence à redescendre bientôt?
Bon, on a une tendance, mais c'est tellement difficile. Là, je pense que les derniers mois nous ont prouvé que les prévisions étaient quasi impossibles avec ce virus-là. À l'hôpital, c'est sûr que c'est encore très, très sous pression, mais c'est pas comme si la pression allait être drastiquement diminuer dans le prochain mois. Là. C'est qu'à un certain moment donné, oui, il va falloir commencer à trouver un équilibre pour essayer que le reste de la vie continue de fonctionner. On peut pas garder les restaurants, les commerces, les étudiants sur pause ou un peu en otage du système de santé. Il va falloir à un certain moment trouver un équilibre. Parce qu'on peut pas... On peut pas non plus, tu sais, la solution n'est pas facile. Puis à un certain moment donné, bien, c'est le reste de nos vies, hein. Même nous, dans le système de la santé, beaucoup d'entre nous ont des enfants, font des activités. Ça devient très, très complexe là, de garder tout sur pause en attendant que ça s'améliore, alors qu'on sait que ça va probablement être très long avant que ça finisse par s'améliorer de manière significative.
Mais donc, comment vous vous sentez de savoir que dès lundi, le sport va pouvoir reprendre, on va pouvoir aller au restaurant en petits groupes, les lieux de culte vont ouvrir. Donc, ça veut nécessairement dire un plus grand risque, là.
Tout à fait. Un peu comme l'ouverture des écoles. Ouais. On savait pertinemment qu'avec l'ouverture des écoles, les gens qui retournaient en classe, qui risquaient de rapporter le virus à la maison, comportaient un risque. C'est un peu le même principe. Je pense qu'il faut y aller d'une manière très graduelle pour être capable de quantifier les effets, d'être capable de s'ajuster aux besoins. C'est pas le temps cette fois-ci d'y aller de l'avant et d'ouvrir les robinets à pleine vapeur. Je pense qu'il faut y aller de manière calculée, puis juste regarder les effets. Je pense qu'il faut justement, comme je disais, là, essayer de trouver un peu un équilibre, mais en y allant de manière progressive.
Donc, vous êtes quand même d'accord avec une certaine réouverture?
Bien, je pense que oui. À un certain moment donné, on n'a pas le choix d'y aller de l'avant et d'essayer de vivre avec le virus. Je pense que beaucoup avant moi l'ont mentionné. À un certain moment donné, ce sont des risques qu'il faut prendre, mais ce sont des risques qui sont calculés. Il faut aussi considérer la population... on peut pas continuer à tout mettre sur pause. Vous savez, on en parlait beaucoup de santé mentale, l'éducation des enfants, les autres patients qui sont en pause dans le système de santé. Il faut tranquillement remettre le rouage en marche et continuer d'avancer et essayer de trouver des solutions autres là, pour être capable de coexister avec le virus. Donc oui, à un certain moment donné, moi je crois qu'il faut y aller de l'avant et essayer de trouver des solutions et cet équilibre-là.
À quoi ça ressemble en ce moment, ceux qui sont dans les hôpitaux? Il y a beaucoup de monde qui se disent, est-ce que c'est encore un peu bigarré, des gens vaccinés qui l'ont, qui sont rentrés pour autre chose? Est-ce que c'est beaucoup de non-vaccinés? On est dans une campagne pour aller convaincre les gens de se faire vacciner. Est-ce qu'il y a des histoires que vous voyez encore des gens qui vous disent « j'aurais donc dû »?
Oui, mais c'est un peu le même portrait que les dernières semaines, le dernier mois. Hein, c'est des patients qui sont non vaccinés, plutôt jeunes, qui sont plutôt malades, hein, qui ont besoin bien souvent d'être hospitalisés de manière prolongée ou encore des soins intensifs. Mais on a aussi une très bonne partie de patients qui, eux, se sont fait vacciner, mais par contre ont des conditions, donc des maladies chroniques qui les mettent à haut risque de développer une maladie plus sévère. Ils sont immunodéprimés, ils sont sur de la chimiothérapie. Et on sait que chez ces patients-là, le vaccin, malgré qu'il est excellent et qu'il probablement prévient beaucoup, beaucoup de conséquences négatives chez ces patients-là, n'empêche pas les gens de l'attraper et quand même de développer des complications. Fait qu'en ce moment, je vous dirais que c'est vraiment les deux portraits de gens qu'on voit là. Encore dans les urgences, mais aussi les patients qui ont besoin d'être hospitalisés.
Il n'y a pas de trois doses ou il n'y a pas beaucoup d'enfants. Est-ce que ça, c'est vraiment. Sont pas vraiment là pour la COVID?
Ben oui, il y a des trois doses, évidemment. Mais comme je vous disais, ce sont des patients qui ont des conditions médicales particulières. La vaccination marche magnifiquement bien. Ça nous prévient, comparativement aux vagues précédentes, je vous le dis, c'est un impact qui est. Incroyable le fait d'être vacciné pour protéger des hospitalisations, mais aussi protéger de la maladie sévère. On en voit beaucoup, beaucoup moins là, de ces réactions très, très sévères là, au niveau des poumons qu'on voyait dans les premières vagues. Donc ça, c'est indéniable là, que la vaccination aide. C'est juste que oui, certaines personnes ne vont pas avoir une protection parfaite, mais bien souvent, ces personnes-là, c'est qu'elles sont plus âgées, immunodéprimées, elles ont un petit quelque chose d'autre dans leur problème de santé qui fait que eux, leur système n'est pas capable de faire une réponse immunitaire parfaite comme vous et moi sommes capables de la faire.
Et les enfants?
Mais les enfants, ça reste encore... oui, il y a certains enfants qui sont très malades. On en a vu au travers le Canada, hein, des enfants qui ont eu recours aux soins intensifs et qui en sont morts.
Ouais.
Donc, encore une fois, il faut garder en tête que beaucoup de ces enfants-là avaient des problèmes de santé ou encore étaient très, très jeunes. Hein. Les petits bébés, eux, ont aucune vaccination et presque pas de système immunitaire. Donc, pour eux, un virus comme la COVID, qui pourrait créer une réaction immunitaire inflammatoire très importante, ça peut être catastrophique. Donc, le but aussi, je vous dirais, là, que les jeunes se fassent vacciner, c'est également de protéger nos populations à risque, nos grands-parents, nos enfants, les bébés naissants de nos frères et sœurs, par exemple.
Laurie Robichaud, urgentologue à l'Hôpital Juif, vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Oui, on a hâte d'avoir cette annonce-là à 14h du premier ministre François Legault sur le déconfinement. Ce matin, dans le Journal de Montréal, on a le témoignage d'Isabelle Lavoie, propriétaire du salon de quilles Darling Bowling à Montréal. Il lance un véritable cri du cœur pour dire, regardez, là, ne nous oubliez pas, on investit une fortune pour que les mesures sanitaires soient respectées. On n'est pas anti-vaccin, on n'est pas contre les mesures sanitaires, on veut simplement vivre de notre commerce. Madame Lavoie est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous hâte à 2 heures de savoir à quoi va ressembler le plan de déconfinement?
Absolument, j'attends ça avec beaucoup d'impatience.
Parce que vous, quand vous regardez les façons de faire, la fermeture de l'économie, vous vous dites que c'est pas mal vous qui avez copé le plus.
Oui, on ne sait pas, on tombe dans une zone un peu grise quand arrivent les salons de quilles, on ne sait pas exactement où on se situe. Des fois, on est d'un sport, des fois, on est un loisir, des fois, on est un divertissement. Alors, on tombe dans des drôles de catégories et sous une même bannière, souvent, on a également un restaurant et un bar.
Ouais.
Alors, ça fait que ça devient complexe aussi à nous mettre dans une petite case bien précise. Mais l'enjeu, c'est qu'on nous ferme en premier, comme si on est un lieu de contagion bien important. Et on les réouvre en plus en dernier de tout. Et quand c'est rendu le mois de juin, ben on est une entreprise qui demeure saisonnière. Alors, rendu à l'été, nous, là, il n'y a plus moyen, comme les restaurants, de faire une terrasse à l'extérieur, puis de bénéficier, comme à Montréal, par exemple, où ils font des plus grandes terrasses, les coûts des terrasses est moindre pour les aider. On n'a pas ça, nous. Je peux pas sortir mes allées de quilles en pleine rue puis dire au monde de jouer. Alors, ça fait que ben ça blesse doublement cette fermeture-là en haute saison pour nous. Et pourtant, c'est très facile dans nos salles de faire respecter toutes les consignes, le port du masque, la distanciation. Tu sais, on investit, comme vous l'avez dit en me présentant, des sommes importantes pour mettre des plexiglas, faire des séparations, des toutes sortes d'endroits où est-ce qu'on peut se désinfecter les mains. Alors, on fait tout ça. On demande le passeport vaccinal tel qu'il nous a été demandé en début septembre. On le fait. On se plie à toutes les mesures. Puis, on a l'impression que ben ça sert à rien. Alors, pourquoi nous obliger à faire tout ça si de toute façon, on va fermer et on est jugé comme un lieu extrêmement important au point de vue des éclosions, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Moi, là, j'ai eu aucune éclosion dans mon salon.
Puis vous dites alors, que vos employés aussi sont vaccinés.
Ben, on est tous vaccinés 3 doses là, depuis Noël. Alors moi, j'ai dit à mes employés, let's go, on va chercher la 3e dose, tout le monde, parce que quand on va réouvrir, ce sera important. Moi, j'ai une petite équipe. J'ai pas la chance en ce moment de me priver d'un ou de 2 employés. C'est très, très difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. J'ai été très chanceuse. Mes employés m'ont entendu et sont revenus tous.
Ah oui, les employés restent.
Pendant la pandémie. Alors, je suis quand même assez chanceuse. Et puis, mes collègues de Salon de Quilles me disent, Mondou, oui, t'es chanceuse parce que nous, pour refaire à chaque fois la même chose, là, reprendre des gens, puis là, ben, les gens se tannent, ils s'en vont, ils font d'autres choses, ils trouvent d'autres jobs ailleurs qui sont moins
précaires,
fragilisés par le système. Voilà. Tu sais, c'est tout ça aussi qu'on se dit, ben, coudonc, on fait toutes les mesures, on n'est pas un sport de contact, et pourtant, le golf intérieur est ouvert en ce moment. Alors, je comprends pas comment ils peuvent comparer qu'on est tellement différent du golf intérieur. Moi, j'ai pas de contact, pantoute, là, dans mon sport. Les gens, c'est une grande, grande salle. On a des salles extrêmement vastes. Alors, on peut accueillir pas mal de monde et s'assurer d'une bonne distanciation sans problème.
Mais aimeriez-vous comment aimeriez-vous être considéré? Comme un sport? Comme un restaurant? Parce qu'il y en a qui disent, ben, est-ce qu'aller jouer au quai, c'est un peu comme danser? Est-ce que c'est plus un sport? Comme de façon concrète, si le gouvernement vous appelait et disait, bon, un salon de quai, je mets ça dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un peu compliqué? Vous diriez quoi?
Ben, moi, je trouve qu'on est dans la catégorie sport et loisirs, simplement. Alors, au même titre que le golf, au même titre que... il y a des gens qui jouent de façon professionnelle, il y a des gens qui jouent de façon amateur, et il y a des gens qui viennent simplement s'amuser, côtoyer des gens pour briser l'isolement, parce que c'est ça aussi, là. Nous, nos personnes âgées nous disent, hey, « Seigneur, une chance que vous êtes ouverts, parce que on va pas ailleurs. » Alors, il y a la santé mentale des gens aussi qui s'effritent. Les entrepreneurs, c'est dur d'être fermé, là. C'est dur s'endetter. Combien de temps on s'endette? On a bien beau avoir des aides au point de vue gouvernemental, mais en même temps, c'est parce qu'on s'endette de jour en jour, là. À un moment donné, ça joue dans la balance. Et puis, comme je le dis...
Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire, regardez, c'est assez?
Ah, ben c'est sûr. À un moment donné, tu sais, mettons qu'on réouvre, là. Moi, je dis toujours, moi, je suis prête à réouvrir le 1er mars. Prenez votre temps, réfléchissez à vos affaires, puis dites-nous comment procéder, et je le ferai avec plaisir. Tu sais, je suis pas contre aucune mesure sanitaire, au contraire, tant mieux, ça me permet de réouvrir, ça me permet de gagner ma vie, ça me permet d'embaucher mes employés, ça me permet de revoir ma clientèle. Tu sais, moi, là, à l'automne, j'ai ouvert, c'est pas croyable la réponse qu'on a eue, les gens étaient tellement contents qu'on réouvre, de revoir d'autres mondes, de s'amuser. Et puis, il y a des groupes corpos, des groupes de tournage. Tu sais, là, se réinventer, là, ben moi, ça fait longtemps que j'ai réinventé ma formule et j'ai extrêmement diversifié mes sources de revenus. Alors, rendu là, ben moi, je suis rendue à lancer ma boule de quille, là, entre les mains du gouvernement, puis dire, à vous de vous réinventer dans vos mesures proposées, à vous de nous dicter une nouvelle façon de procéder, puis arrêtez, s'il vous plaît, de constamment nous arrêter, comme je vous dis. C'est extrêmement facile pour nous de faire de faire que tout le monde suit nos règles.
Ouais.
Alors, à l'entrée, on explique tout ça au téléphone avant qu'ils arrivent. On s'assure qu'ils ont un masque, le passeport en règle. Et puis, moi, je me promène en arrière des allées. Puis, dès que quelqu'un baisse son masque, je lui dis « Attention, on porte le masque. » Et puis, ils nous disent « Oh, mon doux, on s'excuse. » Il n'y a pas de problème. C'est parce que vous êtes en sécurité. Puis, on est là pour vous rappeler ces mesures-là.
Bon.
Et c'est tout ça aussi.
Isabelle...
Puis, quand on pense que les petites entreprises, là, ben, on est l'épine dorsale de l'économie du pays. Tous ensemble, si on arrête demain matin, là, l'économie va tomber. Mmh. Alors ça, là, ça n'a pas l'air être une priorité du gouvernement Legault, parce que lui prône des salaires à 25 $. C'est sûr que dans nos commerces, on ne peut pas offrir ça. On peut par contre offrir bien d'autres choses.
Ouais.
Un lieu convivial, bien traiter nos employés. Moi, tous mes employés ont la chance de bénéficier de repas gratuits. Parce qu'en temps de COVID, je dis, ben, apportez pas vos lunchs. Je trouve ça dangereux que les gens, bon, on connaît pas exactement d'où proviennent les aliments, les boîtes à lunch, etc. Fait que je me dis, parfait.
Ben, écoutez, Mme Lavoie, on va écouter ça à 2 h, l'annonce de François Legault. Merci d'avoir été là ce matin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Richard, bonjour.
Salut. Si on ouvre les salons de quai, après ça, ben les centres d'escalade. Mon fils adore faire de l'escalade.
Ben, oui.
Les jeux d'évasion. Moi, je suis un fan fini des jeux d'évasion.
Mais c'est ça. Il va falloir que ça soit clair cet après-midi. Pourquoi on ouvre un puis pas l'autre?
Parce que si, et moi, je vais te dire, là, moi, je suis pas le genre à manifester, là. Je veux dire, là, mais je parlais de ça à ma blonde hier, là. Puis elle me disait, Sophie, elle dit, si ils ouvrent les lieux de culte avant les salles de spectacle, on est dehors, moi, puis elle.
Ah ouais, marche. Hein?
Vraiment, là, à un moment donné, Christy, là, les salles de spectacle.
Il annonce froid, Richard, demain.
Écoute, dans Le Devoir, il y a un spécialiste en santé, entre autres, qui collabore au journal Le Figaro, puis il dit c'est plus dangereux aller faire ton épicerie pendant une demi-heure dans une grande surface plutôt qu'être assis 2 h dans une salle de spectacle. Tu sais, il y a des incohérences. Il va falloir qu'il nous explique ça. Je sais que c'est pas facile.
Ah non, je sais. Je
vraiment,
sais.
Là.
2 h, point de presse de François Legault.
Attends,
d'ici là, on écoute ton émission.
Marcher dehors.
Ah ouais, hein? Richard en parka avec une pancarte. Bonne émission, Richard. Jean-François Maude, merci. Merci à toute l'équipe. Merci d'être là. On se retrouve demain.
Cube Radio.